La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
10% des émissions de gaz à effet de serre, eh bien c'est ce que produit le gaspillage alimentaire. Un rapport de l'ONU est tombé ce jour et dénombre 1 milliard de repas dans le monde jetés par jour. Vous avez bien entendu, les ménages représentent la plus grande part de ce gâchis avec 60% des déchets, alors que les services de restauration comptent pour 28% et les commerces alimentaires pour 12%. Notre responsabilité individuelle s'explique notamment par le jet de produits périmés mais mangeables et l'achat de trop grandes portions. Alors on check tout ça avant de faire ses courses et de jeter ses produits non consommés. L'espoir du jour concerne les logements, mais malheureusement pas ceux des étudiants du CROUS. Puisque ça y est, la réglementation facilite enfin la reconversion des immeubles de bureaux en logements. Et c'est important puisqu'en Ile-de-France, rien qu'en Ile-de-France, 4 millions de mètres carrés de bureaux vides dont aucune entreprise ne veut. Et même si la partie technique de reconversion de ces bâtiments peut sembler complexe, nous faisons confiance à la créativité des architectes pour trouver des solutions et répondre ainsi à un triple objectif: mobiliser des bureaux fortement inutilisés depuis le Covid, répondre à un besoin de logement croissant et réduire l'artificialisation de nos sols. Tout cela rappelle un objectif important dans l'acte de construire: penser recyclage de l'existant, réversibilité aisée et flexibilité en termes de capacité, notamment des équipements. Et un petit retour sur la culture, puisqu'on a été au festival Chorus ce week-end, et oui, on s'est régalé. On notera Spider pour une bonne dose d'empowerment punk rock féministe, glauque qui n'est pas sans nous faire penser à O2N et qui a explosé la jauge de la petite scène, Simonie au texte juste et au rythme qui tabasse, mais aussi au groupe Touareg Imaran, littéralement ceux qui nous veulent du bien en arabe, qui nous ont autant transportés que fait danser. Enfin, aujourd'hui démarre à la Villette 100% l'Expo, une vitrine de la scène émergente qui met en lumière des artistes qui sortent de l'école. On avait reçu Quentin Fromont dans un Zoom à cette occasion. Un rendez-vous 100% gratuit qui met en lumière une cinquantaine d'artistes contemporains. C'est jusqu'au 28 avril, alors n'hésitez pas à faire un tour. On démarre sans plus attendre l'annonce du programme du jour. Aujourd'hui, on repart sur les bancs de l'école pour notre grande interview en Seine-Saint-Denis spécialement, où la fonction publique fait grève pour dénoncer la vétusté des établissements et leur impact sur les conditions d'enseignement et d'égalité des chances. C'est Chloé Calame et Laura Mieton qui animent cette interview et qui reçoivent Lucas Marchand, un membre de la CGT Éducation 93. On enchaînera sur le Zoom et je nous dirai chanceux puisque l'on continue en musique avec Judd Todd pour un échange avec Hugo Traversier et un petit concert live pour découvrir son nouveau son. Donc restez bien avec nous pour régaler vos oreilles après cette journée. Et on aura une chronique sur l'Euro, la chronique sportive d'Esteban qui fait le point sur l'état de forme des favoris pour l'Euro de foot à 3 mois du début de la compétition. Et pour finir, deux coups de cœur de lecture engagée queer qui nous emmène en Amérique latine. J'animerai donc la dernière chronique lecture de cette session. Le programme est annoncé. Et bonjour Chloé, Laura et Lucas. On va aujourd'hui parler donc de grève de la fonction publique dans le 93, notamment pour parler des conditions d'enseignement dans des établissements scolaires vétustes. Et je vous laisse la parole.
Tout à fait. Bonsoir. Dans le département de Seine-Saint-Denis, cela fait déjà 5 semaines que les professeurs, les élèves, les syndicats et les parents d'élèves se mobilisent pour réclamer un plan d'urgence pour l'école dans le 93.
L'éducation et le... Ah, on m'entend mieux, voilà. Donc cela fait déjà 5 semaines que les professeurs, les élèves, les syndicats et les parents d'élèves se mobilisent pour réclamer un plan d'urgence pour l'école dans le 93, l'éducation et le système public en France aussi de manière globale. Lucas, toi qui étais sur le terrain, qui est allé sur le terrain, comment se passe cette mobilisation ?
Bah, c'est une mobilisation qui est exceptionnelle. C'est une mobilisation qui est construite déjà depuis un bout de temps. Hein. Elle a commencé effectivement il y a à peu près 5 semaines. Le 26 février, en fait, c'était... Hier, l'anniversaire, les 1 mois de cette mobilisation, ce qui n'est pas rien. Et c'est une mobilisation que syndicalement, on a préparée depuis en fait quasiment la rentrée de septembre 2023. On est parti de la base des enseignants, des personnels administratifs, des personnels médicaux, sociaux, des vies scolaires et des personnels assistants d'élèves en situation de handicap pour demander c'était quoi leurs besoins. On est parti d'un constat que ça, pour le coup, tout le monde partage, c'est que la Seine-Saint-Denis, elle est sous-dotée, qu'effectivement... D'aspects, nos lycées, collèges et écoles, elles sont en très mauvais état, qu'on n'est pas du tout assez nombreux et nombreuses pour pouvoir eh bien, tout simplement accueillir les élèves dans des bonnes conditions et leur faire apprendre dans des bonnes conditions. Donc on est parti de là pour cette mobilisation.
Donc toi, tu es professeur d'histoire géo au lycée Delacroix à Drancy. Est-ce que les équipes enseignantes et même les équipes encadrantes ont subi des pressions depuis les débuts de la grève ?
Dans mon lycée, c'est pas vraiment le cas. J'ai un lycée qui est un peu particulier, c'est un lycée qui a une très très grande taille. Donc c'est un peu difficile de pouvoir mobiliser tout le monde. Donc nous, au niveau des pressions, non, on n'en a pas reçu, bien qu'on ait tracté devant notre établissement, etc. Par contre, on sent que certains établissements qui ont plus pris la lumière que nous, pour aussi des conditions de travail et aussi de vétusté, hein, de délabrement même. Oui, clairement, il y a eu des pressions importantes. Syndicalement, nous, on a accompagné des collègues qui ont subi de ces pressions-là. Que ce soit le très célèbre maintenant lycée Blaise-Sandrars de Sevran, c'est aussi le cas du collège à Villepinte des Mousseaux. Donc, ouais, effectivement, on sent que pour l'instant, un peu la seule réponse de l'institution, c'est plutôt la répression.
D'accord, justement. C'est une mobilisation qui a été très médiatisée et le lycée Blaise-Sandrars, on y vient, puisque nos auditeurs ont peut-être en tête les images des lycées, enfin les images de ce lycée vétuste qui circule depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et dans les médias où l'on peut voir des rats dans les locaux, des murs qui s'effritent ou des élèves qui travaillent à même le sol. Une professeure du lycée Blaise-Sandrars déclarait dans une vidéo devenue virale que faire une mission de service public dans un bâtiment où il pleut, ça abîme les relations des élèves à l'État. Comment, toi, Lucas, tu décrirais cette relation entre l'État et ses élèves du 93 ?
Ouais, c'est difficile. On a des élèves qui vraiment sont... moi, ça fait 3 ans que j'enseigne en Seine-Saint-Denis. C'est un bonheur d'enseigner avec ces élèves-là qui ont un vrai attachement à l'école. Parce que là, l'école, pour eux, en tout cas, elle a cette promesse... Alors ce terme, il est critiquable, mais de l'ascenseur social. Il y a une idée où on a beaucoup d'élèves qui sont dans des situations sociales particulières. On le rappelle toujours, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre et le plus jeune de la France hexagonale. Donc ils sont très nombreux, ils sont souvent dans des situations sociales, familiales compliquées, alors sans être dans le drame, mais tant qu'on n'aura pas, en fait, effectivement, qu'ils ne se sentiront pas accueillis, que ce soit par, encore une fois, des locaux en bon état. Parce que moi, par exemple, dans mes locaux, il y a beaucoup de dégradation, mais en fait...
Comme quoi, par exemple ?
Alors, nous, on a un mur qui est troué quasiment. Enfin, beaucoup de murs qui sont infiltrés, qui sont en très mauvais état. Évidemment, après, le classique, des stores cassés, des fenêtres cassées, des portes cassées. Puis après, effectivement, par-dessus, il y a des tags d'élèves, des détériorations. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir lorsqu'ils arrivent dans ces bahuts et que... ils se sentent pas vraiment respectés, en fait. Et à nous, ils nous le disent. Et pour l'instant, ils ont l'impression qu'on leur apporte pas de vraies réponses. Et du coup, il y a une vraie colère de la part de nos élèves qui s'exprime parfois par la mobilisation, mais à cet âge-là, c'est pas évident. Mais en tout cas, qui est bien présente. Et l'État, il a besoin d'avoir une autre réponse, encore une fois, que la réponse répressive que nos élèves subissent, en fait, plus que nous, hein, évidemment, par la stigmatisation, notamment, qu'ils subissent, et elles.
Vous parlez de stigmatisation, c'est assez intéressant ce décrochage entre d'un côté l'attachement aux valeurs de l'éducation, à l'espoir de se construire un avenir, ces promesses-là, et d'un côté le sentiment de ne pas être respecté. Est-ce que pour vous, le département serait victime de stéréotypes ou d'un mépris à l'égard des plus pauvres, des plus fragiles ?
Oui, clairement. Pour nous, ce constat, il est fait. Encore une fois, je commençais à le dire tout à l'heure, on a chiffré. En fait, l'État ne peut pas vraiment se défausser de cette question-là, parce qu'on a chiffré que ces manques, ils étaient bel et bien là, qu'il nous manquait plus de 5000 enseignants et enseignantes, qu'il nous manquait plus de 700 AED, de même pour les assistantes sociales, les psy-UN, etc. Ce constat, ce décrochage, il est chiffré, il est clair. Et après, effectivement, c'est à nous, militants, militantes, et aussi c'est le cas notamment des chercheurs et des chercheuses. On sait qu'hier est sortie une tribune, notamment, pour soutenir ce mouvement. Et puis ça, l'analyse, elle est claire. C'est qu'effectivement, nos élèves, ils sont victimes de la stigmatisation, du racisme, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, effectivement, la Seine-Saint-Denis est très stigmatisée, qu'on a tendance... Je ne vais pas refaire la manière dont on en parle dans les médias, mais évidemment que de mensonge en mensonge, on en vient à pouvoir tranquillement laisser de côté, vraiment ségréguer ce territoire.
D'accord. Donc j'aimerais que vous réagissiez aux propos d'une élève du lycée Blaise-Sandrars dont on parlera beaucoup ce soir, puisque voilà, c'est le lycée qui est devenu vraiment très médiatique ces derniers temps, dont les vidéos d'alerte sur TikTok sont devenues virales. Et justement, j'aimerais vous faire réagir aux propos d'une des élèves qui disait « Beaucoup d'entre nous, dans une interview, ont grandi dans ces établissements et ont du mal à se rendre compte que ce n'est pas normal ». D'où est partie, d'après vous, la prise de conscience des élèves que vous avez pu côtoyer? À quel moment ils se sont dit « Non, mais en fait, ce cadre, il n'est pas normal ?»
C'est une bonne question. Alors, je pense que... Enfin, évidemment que cet élève est, que j'ai entendu aussi est bien mieux placé que moi pour le dire, mais je pense qu'il y a des élèves qui le voient, qui le savent. Il y a un truc assez marquant, je trouve, quand on est prof en 93, c'est quand on fait des sorties, et on a énormément de collègues qui font des sorties à Paris notamment. Effectivement, on voit qu'il y a une barrière, vraiment, que passer la frontière du 19e ou du 18e, bah, c'est pas rien pour nos élèves, ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc en fait, ouais, dès qu'on commence à un peu changer de cadre, ils s'en rendent compte assez facilement. Et effectivement, il peut y avoir parfois une forme de, ouais, d'habitude, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils en prennent conscience, et j'espère bien qu'ils sont très nombreux et nombreuses à le savoir, et je pense que c'est le cas.
On va faire un point chiffré sur la vétusté des établissements maintenant. D'après un audit publié par France Info, 465 établissements, 150 sont considérés comme vétustes, et il y aurait près de 30% de lycées franciliens en très mauvais état. Quels sont les risques, d'après vous, pour la santé des élèves en allant en cours dans ces bâtiments?
Clairement, oui, il y a des risques, ça c'est évident. Au niveau de la température, tout d'abord, hein, on travaille dans des conditions qui sont complètement catastrophiques. À partir de mai, et puis jusqu'à à peu près fin septembre selon les années, on travaille à 35 degrés, et ça clairement, enfin... Alors, ça tombe très bien pour l'État qu'il n'y a pas de texte législatif, que ce soit dans le Code du travail ou dans le Code de l'éducation, qui l'obligera à se conformer à une température maximale, mais également minimale. Alors moi, ça ne concerne pas mon lycée, parce qu'on a tendance à plutôt faire la méthode du sauna en hiver. Mais il y a des lycées qui sont aussi sous-chauffés.
La méthode du sauna, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on met le chauffage à fond, et puis même si l'isolation n'est pas terrible, bah, au moins on a chaud. Et du coup, on en est à des situations où des fois, en décembre, on a des collègues qui ont les fenêtres grandes ouvertes, parce que sinon, c'est l'étuve dans la salle de classe. Et puis, et moi, dans ce très grand lycée, en plus, on a aucun prof n'a sa propre salle. Donc du coup, on est tout le temps en train de changer de salle et d'arriver dans des salles. Enfin, je pense qu'on a tous des souvenirs en arrivant dans des classes où il s'est passé 2 heures de travail intellectuel intense. Voilà, enfin, il y a... Et là, du coup, l'air est très renouvelé, et puis du coup, là, le gâchis écologique, il est abyssal, soit il ne l'est pas. Et là, c'est dangereux, effectivement, pour la respiration, pour nos élèves. Et après, effectivement, bah, c'est l'humidité, c'est très dangereux. Alors, ce qu'on appelle les nuisibles, bon, il y a énormément de rongeurs, notamment dans pas mal d'établissements. Il y a eu pas mal de vidéos, mais ça, c'est pas... Enfin, contrairement à ce qu'a dit notre cher vice-président de la région Île-de-France, c'est loin d'être des mensonges, c'est la vérité. Enfin, nous, c'est plutôt les cafards dans mon lycée, voilà. Donc, effectivement, ça pose des questions sanitaires évidentes et des questions sur les conditions de travail et d'études de nos élèves. En fait, on ne peut pas vraiment se concentrer tout à fait quand on est dans ces conditions-là. En sachant qu'en plus, ce qui est particulier, du coup, c'est que nous, nos élèves, on a besoin vraiment d'avoir du temps en classe serein. Ils ont besoin d'être sereins à l'école, parce que bien souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, à l'école, c'est pas beaucoup... chez eux et elles, c'est pas beaucoup mieux. Et donc, du coup, si on n'est même pas capable à l'école de leur fournir des conditions simplement de vie confortables, on ne va pas vraiment réussir à respecter le fameux contrat républicain et la promesse.
On sait que c'est la région Île-de-France qui est en charge des travaux de rénovation des lycées. Et récemment sur TF1, il y a James Chéron, qui est vice-président en charge des lycées et du conseil régional d'Île-de-France, qui a déclaré « Cette année 2024, la région a investi 1 milliard d'euros dans ses établissements publics. D'après vous, que vaut ce chiffre et qu'est-ce que vous réclamez ?»
Oui, c'est vrai qu'il est un peu sorti de on ne sait quel chapeau. On a vu ce chiffre, on ne voit pas trop à quoi il correspond. On nous fait des annonces. Nous, on siège syndicalement dans des instances départementales, que ce soit au point de vue de l'éducation ou à la région, au département, ou dans les municipalités pour les écoles, hein, parce que c'est le cas aussi. Effectivement, alors ce chiffre-là, moi, je ne vois pas exactement à quoi il correspond. Il y a eu en fait assez peu de choses qui ont été faites. Alors, il y a dû avoir, c'est pas 1 milliard, mais un petit budget pour mettre de l'affichage sur tous les collèges et les lycées du département sur les JO. Alors ça, on a de l'affichage. Et ça, on sait que pour le coup, il y a un investissement fort de l'État, qui, là, pour le coup, ne se défausse pas sur les régions, hein, qui investit par lui-même, comme il est tout à fait capable de le faire. Non, pour l'instant, on a un peu du mal à savoir où va cet argent. On sait qu'il y a des subventions, enfin, si on doit parler des subventions publiques, il y a aussi les subventions publiques non obligatoires que fait la région et Mme Pécresse et Jeanne Chiron au privé. Donc non, pour l'instant, moi, le 1 milliard, j'ai un peu du mal, c'est un beau chiffre bien rond. Je vois pas exactement on nous rétorque qu'il y aura pas de construction de lycée. Idem pour les collèges, on a beaucoup de collèges qui craquent. Il y a des collèges à plus de 800-900 élèves, c'est pas du tout adapté en fait à des élèves de 11 à 15 ans. Et on nous dit qu'il y aura pas. On nous dit que le 93 n'est pas en augmentation démographique. Alors c'est pareil, on ne sait pas quelles études sur quelles études s'appuient ces chiffres-là, mais voilà, non, on ne voit pas cet argent. D'après nous, ouais, on voit pas trop sur quoi ça s'appuie. Alors, je sais pas sur quelle fourchette on regarde, mais en tout cas, il y a des villes peut-être qui perdent un peu de population, mais par contre, il y en a d'autres qui augmentent énormément. Donc là, on a du mal à comprendre.
Eh bien, très bien. Merci à tous les trois. On va faire une petite pause musicale, mais on vous retrouve tout de suite pour ce moment fort intéressant. On enchaîne avec Crumb à Mama. C'était Crumb avec sa musique Amama et on reprend tout de suite l'interview du jour où nous sommes en Seine-Saint-Denis pour parler des conditions de vétusté des établissements scolaires avec Chloé Calam, Laura Mietton et Lucas Marchand.
Donc dans la première partie d'interview, Lucas, tu venais de mentionner les subventions publiques non obligatoires. Et justement, il y a un grand débat sur le financement du public et du privé dans l'éducation nationale. J'aimerais parler d'une enquête du Monde de janvier 2023 qui explique que le ministère de l'Éducation nationale alloue au public et au privé sous contrat les mêmes montants en fonction des effectifs globaux. Mais qu'en fait, la différence dans le budget, dont on parle si souvent, se crée dans la façon d'allouer ces moyens entre le primaire et le secondaire. En fait, d'après Le Monde, il y a deux philosophies divergentes. D'un côté, le privé, qui choisit de privilégier ces lycées qui sont le signe de l'excellence du privé et qui établissent son excellence notamment dans les classements. Et de l'autre, le public, qui priorise la primaire et le collège pour tenter de réduire le déterminisme selon lequel les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires. Donc ça, ce sont les mots du Monde. Et j'aimerais te demander ton avis sur le rôle des établissements privés dans cette affaire. dans la situation de l'éducation aujourd'hui en France ?
Ouais, c'est un vrai problème. Tu l'as très bien résumé, c'est une rupture d'égalité. C'est effectivement, un service public qui ne peut pas être à vocation lucratif. Et du coup, l'enseignement qui est privé, c'est un peu, d'après nous, ça ne va pas dans le sens, effectivement, d'un enseignement qui soit égalitaire. Mon syndicat, la CGT Éducation, réclame la nationalisation de l'école privée parce qu'on pense que tous les moyens devraient être alloués de la même manière, comme tu l'as dit, et distribués de la même manière, effectivement, tout à fait, dès l'école et le collège, tous les moyens soient mis avec autant d'élèves par classe dans toutes les, et un nombre le plus faible possible, évidemment. Partout, sur tous les territoires, on ne pourra pas résoudre ce problème de la fracture territoriale, de la ségrégation, tant qu'on n'aura pas effectivement récupéré cet argent-là pour que ce soit l'État qui ait la main dessus, en fait, et qui puisse l'allouer de manière égale, voire, comme on le demande dans le plan d'urgence, plus là où pour l'instant il y a besoin de plus de besoins, en attendant qu'on ait une égalité parfaite future.
Et j'aimerais parler aussi du coup des écarts de financement entre les lycées publics, parce qu'il semble qu'il y ait des problèmes aussi à ce niveau-là. La CGT 93 a donné sur son site l'exemple de l'écart de financement entre deux lycées. On parlait donc de deux lycées construits en 2021, à Palaiseau dans le 91 et à Pierrefitte-sur-Seine dans le 93. Et la CGT a relevé une grosse différence de financement entre ces deux lycées. Donc 47,4 millions d'euros pour 1400 places à Palaiseau et 38,7 millions d'euros pour 1200 places à Pierrefitte-sur-Seine. Alors comment on peut expliquer le fait que la répartition des enveloppes budgétaires ne soit pas équilibrée ?
C'est une très bonne question.
On l'explique pas.
À part les éléments d'analyse qui pourront toujours nous être réfutés, comme c'est des populations qui de toute façon sont plus pauvres, sont plus délaissées, ont moins de répertoire d'action disponible pour faire entendre leur voix et pour dénoncer cette inégalité, on compte sur le fait que ça passera comme ça. Effectivement, donner plus aux plus riches et donner moins aux plus pauvres, c'est une politique qui fleurit depuis quand même pas mal d'années en France, dans l'éducation nationale et ailleurs.
D'accord. Donc on va continuer à parler justement des projets du gouvernement actuel, en tout cas par rapport à la réforme de l'éducation nationale. Donc il y a eu cette histoire de groupe de niveau voulue par Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre. Donc depuis que la ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, a pris sa suite, ça a été un petit peu modifié. Donc les élèves passeraient un tiers de l'année en classe complète et en sixième et en cinquième, en maths et en français, ils seront en groupe, et donc en groupe sur les deux tiers du temps de l'année. Mais hier, sur France Inter, la ministre Nicole Belloubet affirmait « Je refuse le tri social des élèves ». Elle dit « Proposer plutôt une pédagogie différenciée ». Qu'en pensez-vous ?
Ouais, il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites. En fait, c'est vraiment là, c'est occuper de l'espace pour dire qu'on fait quelque chose, dire qu'on a... cette innovation, qui n'en est pas du tout une, que je le répète, mais toutes les recherches en sciences de l'éducation concordent pour dire que ça n'a, enfin que c'est même contre-productif en fait, que ce soit pour les groupes des supposés moins forts qui va du coup pas réussir à se mobiliser, que ce soit sur la perte de l'entraide des élèves aux différents besoins. Donc voilà, de toute façon, ce projet-là, tout le monde est d'accord, et même les chefs d'établissement, ce qui est rare, est d'accord pour dire que c'est à jeter. Du coup, on a essayé de changer un peu. C'est pas des groupes de niveau, c'est des groupes de besoins. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on nous promet des choses. Tant qu'on n'aura pas énormément de moyens supplémentaires, en fait, pour pouvoir baisser le nombre d'effectifs par classe, tout ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Si on avait maximum 20 élèves par classe, on pourrait en fait faire cette différenciation, qui est un peu un mot sacré maintenant dans l'institution, qu'on entend beaucoup quand on est en formation, la différenciation. Faire une différenciation avec 28 élèves, 26 élèves, c'est pas vraiment possible. Quand on commence à être en dessous de 20, on peut prendre le temps de connaître chaque élève, ses besoins, de s'y adapter au sein de la même classe, et puis de faire nous-mêmes, de mettre par paire ou plus des élèves plus ou moins en difficulté, etc. Enfin, en fait, on ne demande pas grand-chose de sorcier, en fait. On demande des moyens, c'est une décision politique. On ne demande pas des espèces de... On dirait vraiment que c'est sorti de son chapeau, ça paraît très moderne. on fait des groupes et tout, on fait quelque chose, mais en fait, on est contre-productif.
Mais si ces projets rentrent en application et qu'il n'y a pas plus d'enseignants et que vous n'avez pas moins d'élèves par classe, par exemple, est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, comment, quand vous serez toujours professeur l'année prochaine, par exemple, vous allez réussir à faire, enfin, comment, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour trouver une solution?
Je suis élu au comité social administratif départemental, donc c'est l'instance où départementalement on discute justement des postes alloués. Et du coup, nous, on est arrivé à la dernière instance en disant, mais alors du coup, on nous dit, donc il faut rajouter à peu près 6 heures par classe, enfin même plus en fait, 8 heures, parce qu'en 6e et en 5e, le français et les maths, c'est à peu près 3h30 ou 4 heures par semaine. Donc il faut rajouter un niveau pour pouvoir faire plus de classes, parce qu'on a des classes à 26, et si on veut faire plusieurs groupes, ça sert à rien, on va pas faire des groupes à 26, hein, donc il faut des groupes à effectifs réduits. Donc on est arrivé, on a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous nous chantez, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et du coup, on nous a dit non, enfin, on nous a donné quelques heures en plus, mais clairement pas du tout assez d'enseignants pour pouvoir faire ça. Donc en fait, on va dire, alors ce qu'on nous a répondu, c'est l'autonomie des établissements. Donc ça, c'est la réponse magique, c'est chaque établissement pourra se débrouiller et faire comme... C'est quoi le résultat? C'est qu'on va perdre les options, on va perdre les dédoublements en langue, on va perdre ce qui a été perdu, ce qui n'est plus financé, qui va devoir maintenant de nouveau être financé par d'autres heures un peu magiques. C'est ce qu'on appelle les dispositifs classe-relais. Et ça, c'est quelques dizaines, je crois, peut-être un peu moins, de collèges.
Est-ce qu'on peut préciser ce que sont les dispositifs classe-relais?
Ouais, justement, les dispositifs classe-relais, donc c'est quelques collèges, je crois, qui sont un peu moins de 20. Qui donc ont ce dispositif qui est pour les décrocheurs sévères et décrocheuses, qui donc du coup peuvent intégrer une classe spéciale avec des effectifs réduits, avec des cours adaptés, etc. Pour des élèves qui sont encore normalement dans le circuit classique, qui n'ont pas d'accompagnement autre. Et donc du coup ça, c'est plus financé tel quel. On enlève ces heures-là, on les met a priori pour financer ces groupes de niveau. Enfin voilà, c'est aberrant, enfin, y a aucune logique à ça.
On sait que dans le 93, il y a un double problème. Donc en plus de l'état des établissements, il y a comme partout en France un problème de recrutement des enseignants et un manque d'attractivité du métier. Une des solutions proposées par l'État, c'est de recruter à Bac plus 3, donc après une licence. Vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour l'instant, c'est un peu difficile de parce que du coup, en fait, comme toutes les annonces qui sortent à peu près maintenant, on a l'impression qu'il y a une réforme du CAPES, c'est-à-dire le concours... Ça, c'est pour l'enseignement supérieur ou du CRPE pour le premier degré. Il y a des réformes un peu tout le temps. Alors, on l'a enlevé avant, c'était en Master 2, Master 1, etc. En fait, ça change un peu tout le temps. Tant qu'on n'a pas. Je vais faire des réponses qui vont être au bout d'un moment un peu agaçantes, mais tant qu'il n'y aura pas des moyens pour former avec. C'est pareil, hein, même en M1, hein, être à 200 et être envoyé en stage sans aucune formation ou être vraiment formé de manière. Importante en master avec des voilà avec en prenant le temps, bah ça change tout. Donc en fait, c'est un peu la même réponse. Donc en fait, dans la revendication de la CGT, recruter à bac plus 3, pourquoi pas, mais en fait pas dans ces conditions. On se doute bien que là, c'est en fait simplement une nouvelle manière de faire des économies sans doute. En fait, on a du mal à pouvoir se réjouir de ça. Donc en fait, pourquoi pas discuter de effectivement à quel moment on recrute les enseignants et enseignantes, mais tant qu'on n'aura pas mis de l'argent.
OK, super.
J'aurais du mal à commenter, mais c'est vrai que j'ai vu passer ça, mais le projet global pour l'instant n'est pas hyper défini, même si on se doute.
Donc l'interview va progressivement toucher à sa fin, et il y a une dernière question qu'on aimerait vous poser, qui est justement, quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose, ou de quel sujet vous auriez aimé parler ce soir, maintenant que vous avez le micro?
Ah bah très bien. Moi j'étais vraiment venu à... une question, c'est comment souvenir la mobilisation.
Alors allons-y.
Eh bah très bien, je vais faire une petite instant de publicité. Cette mobilisation, donc, on l'a dit au début, mais du coup j'ai pas eu le temps de... Enfin c'est moi qui suis parti un peu sur
allez-y,
autre chose.
Allez-y.
Mais de parler, du coup ça fait 5 semaines, on a fait plein d'actions. On a fait quelque chose qui est assez nouveau, de manifester dans le 93, c'était super. On est allé voir le ministère de l'Éducation, voir Matignon, on va à Bercy vendredi. Effectivement, ça fait pas mal de jours de grève pour beaucoup de personnel depuis maintenant 5 semaines, et même 6, et puis on se doute bien qu'on va devoir en fait continuer à la rentrée prochaine, fin avril. Et donc on a ouvert une caisse de grève pour pouvoir pallier à ces nombreux jours de grève qui vont être retirés. Et donc cette caisse de grève, vous pouvez, si vous tapez caisse de grève éducation nationale, plan d'urgence 93, vous la trouvez facilement. Si vous pouvez la faire tourner, donner un petit peu. On a beaucoup, et c'est quelque chose qui marche très bien, c'est de mettre en grève les personnels qui sont souvent les plus précaires, donc la vie scolaire, donc les assistants d'éducation, c'est-à-dire les surveillants qu'on appelle souvent les surveillantes. Mettre en grève les enseignants du premier degré qui parfois sont, qui sont à plus de 80% des femmes, qui sont souvent dans des situations familiales qui sont pas forcément évidentes pour elles de faire plusieurs jours de grève d'affilée. Donc avoir une caisse de grève très solide, c'est un vrai argument, même dans nos négociations face à l'institution, au ministère, voire même face à Gabriel Attal, de dire, bah, vous voyez, nous, on a là 100 000 euros, on a de quoi faire encore de la grève, on a quoi tenir. C'est ça qui peut nous faire gagner ce mouvement. Et du coup, on a besoin effectivement d'une mobilisation de tout le monde. Parce que si on gagne ça dans 93, en fait, ce sera une victoire pour tout le monde. Ce sera une vraie victoire de justice sociale voilà, pour la France tout en entier.
Est-ce que d'après vous, il y a d'autres départements dans lesquels la situation pourrait un petit peu décoller ou s'embraser, dans lesquels il pourrait y avoir le même niveau de revendication ?
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on leur a proposé de prendre le même questionnaire qu'on a fait, de construire une revendication comme nous et puis de demander aussi plus de justice dans les autres effectivement, territoires qui sont aussi ségrégés.
Merci beaucoup à tous les trois, Chloé Calam, Laura Mietton et Lucas Marchand, justement pour nous parler d'éducation et de ségrégation territoriale, notamment dans l'attribution des financements. C'est un gros sujet que l'on a traité là et on va continuer en musique, en live, pour se détendre un petit peu parce qu'on a cette chance chez Radio Campus. Aujourd'hui, on reçoit Jude Todd et il va nous jouer Sad as Fuck. Jude Todd, pardon. Sad as Fuck, c'est parti.
It's been 6 weeks now, and I'm just kissing your mouth. Nobody tells you how to mend the broken heart. I guess it's no one's fault. Yeah, I'm just not enough. I hope you don't find out. Forever sad as fuck. Got the pictures from your comeback. I really wish that we can go back to that summer 22 when you said I'm in love with you. Do you still wear a favorite sweater? Do you still care about my welfare? Do you know that since you left, I haven't smoked one cigarette? But it's not easy. I'm going crazy. It's been 6 weeks now, and I'm just kissing your mouth. Nobody tells you how to mend a broken heart. I guess it's no one's fault. Yeah, I'm just not enough. I hope you don't find love forever sad as fuck. Ooh, sad as fuck. Ooh, sad as fuck. Ooh, sad as fuck. Ooh, sad as fuck. All my friends say I'm a loser. I spend my days thinking of ya. Guess it helps me pass the time. It's your birthday, should I call ya? Or should I stay cool and ignore ya? Make you think I'm doing fine. I'm doing fine. But it's not easy. I'm going crazy. It's been 6 weeks now. I'm just kissing your mouth. Nobody tells you how to mend a broken heart. I guess it's no one's fault. Yeah, I'm just not enough. I hope you don't find out. Forever sad as fuck. Ooh, sad as fuck. Ooh, sad as fuck. Sad as fuck. Ooh, ooh, sad as fuck.
Et merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard pour l'interview Zoom. Mais d'abord, c'est Esteban qui va nous parler de sport et de l'euro. Salut Esteban.
Salut.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Alors bonsoir chers auditrices, auditeurs de Radio Campus Paris. Ce soir, ouais, dans un contexte de fin de trêve internationale dans le monde du football, on va faire un petit tour d'horizon des états de forme des grosses nations favorites pour remporter cet Euro 2024 qui va débuter dans moins de 3 mois en Allemagne, le 14 juin prochain pour être exact. Alors on va commencer tout de suite par le pays organisateur, les Allemands donc. Bah, eux, ils devaient se rassurer, j'ai envie de dire rassurer tout leur pays, même parce que la Mannschaft, depuis son sacre en Coupe du Monde 2014, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. Deux terribles désillusions en Coupe du Monde 2018 et 2022 avec deux éliminations en phase de poule. Certes, une demi-finale à l'Euro 2016 perdue face à la France, on s'en souvient, et seulement un petit huitième de finale lors du dernier Euro. Alors samedi soir, on a eu le droit justement à un Allemagne-France et on va faire simple, les Allemands ils ont ratatiné nos bleus 2-0, du jeu, de la sérénité, du rythme, de l'agressivité, bref, une Allemagne retrouvée qui a confirmé son bel élan hier soir face aux Pays-Bas avec une victoire 2-1. Notre équipe de France, bon, elle a fait tout l'inverse de l'Allemagne samedi soir, un match chaotique, pas d'envie, pas d'énergie et pourtant devant son public à Lyon au Groupama Stadium. Et hier, ce n'était guère mieux face à une superbe équipe chilienne au Stade Vélodrome. Comme 3 jours plus tôt, les hommes de Didier Deschamps se sont retrouvés très tôt menés avant de réagir par l'intermédiaire de Youssouf Fofana, le milieu de l'AS Monaco, et surtout Randal Kolo Muani, auteur d'une très belle performance, lui qui est beaucoup critiqué au Paris Saint-Germain depuis son arrivée l'été dernier. Il s'est rassuré hier soir et on espère pour lui et pour les Parisiens que cela va lui redonner confiance en vue des énormes échéances à venir. Mais à part ces deux noms hier, l'équipe de France n'a pas été rayonnante, se faisant dominer par séquence par le Chili. Et même si Olivier Giroud est venu inscrire son 57e but en bleu, le score final est de 3-2 pour la France, 4 buts encaissés en 2 matchs et les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni devront rectifier le tir au mois de juin avec 2 matchs amicaux le 5 et le 9 à quelques jours du début de l'Euro donc. Alors ensuite on a eu l'Angleterre et la Belgique qui se sont tenus en échec de partout malgré une grosse domination anglaise face à une faible Belgique, il faut l'avouer, qui a pu profiter quand même des petites erreurs de défense des Three Lions. Il faut que je vous parle pour terminer de l'Espagne et d'un jeune joueur de 16 ans, né en 2007 et qui est en train de se révéler aux yeux du monde. Je parle de Lamine Yamal, jeune espagnol du FC Barcelone, et hier au Santiago Bernabéu dans l'antre du Real Madrid il a livré une prestation tout simplement époustouflante face au Brésil, impliqué dans les 3 buts de son équipe. Ses dribbles, sa vivacité, sa patte de gaucher et sa maturité portent à croire de plus en plus que l'on assiste à l'éclosion d'un crack, d'un génie absolu, un peu à l'image de Lionel Messi il y a 20 ans. Alors retenez bien son nom, Lamine Yamal, et nul doute que cet été il sera l'une des attractions de cet Euro avec l'Espagne qui risque de causer beaucoup de soucis à toutes les autres nations.
Super, merci beaucoup Esteban pour cette chronique sportive.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et c'est parti, cette fois on lui parle pour de vrai. On enchaîne avec Hugo Traversier qui aujourd'hui échange avec Judd Todd. Bonsoir à tous.
Et bonsoir, nous recevons Judd Todd qui vient de nous faire un live assez incroyable. C'est quand même autre chose que dans les écouteurs. Alors Judd Todd, tu es né de parents franco-anglais et tu baignes depuis ton plus jeune âge dans la musique anglaise. Tu as été bercé par les groupes phares britanniques des années 60 aux années 90, allant des Beatles à The Verve. Et dès l'âge de 9 ans, tu te mets à écrire tes premiers textes. Comme beaucoup d'enfants, tu t'amuses à chanter les tubes de l'époque, Robbie Williams, Eurythmique, qui passaient en boucle dans la voiture. À l'âge de 14 ans, tu déménages, tu suis tes parents dans le Var. Et pendant cette période, tu te confies encore à ta feuille et à ton stylo. Puis tu te mets à poster des vidéos sur YouTube régulièrement. Grâce à cela, tu rencontres les membres de ton premier groupe, Sundays Fools. Le premier EP des Sundays Fools est sorti à l'été 2011. Tu as fait ensuite The Voice, excuse-moi, en 2013. Et ensuite de ça, tu as fait la première partie des Bébés Brunes aux arènes de Fréjus, devant plus de 4000 personnes. Tu as aussi chanté en première partie de Bastian Baker et de Elephant. Et depuis, tu enseignes les scènes et les festivals. Tu as notamment fait la première partie des... Alors, attends, les Blanks à la boule noire, excuse-moi, c'est l'anglais, c'est compliqué. Depuis, tu as aussi un EP qui est sorti, Life on the Riviera, en 2022, qui a été diffusé à la BBC. Tu as joué aussi au Supersonic, si je ne me trompe pas.
Mais quelle liste !
Et quelle liste ! Et là,
t'as trouvé des infos.
J'ai bossé.
Hein.
Et même des trucs que j'avais oubliés.
Ah ouais, et tu viens de sortir un single nommé Italy, avec... pour projet de sortir plus ou moins un titre par mois. Et là, vendredi, on a le EP qui sort, Sad As Fuck. Est-ce que j'ai tout bon ?
Alors, c'est pas le EP qui sort, du coup.
C'est le titre, pardon.
Qui fera partie de l'EP What Did We Expect, qui sort le 31 mai. Mais sinon, t'as tout bon, mec. C'est
superbe. Bravo. Et What Did We Expect, justement, qu'est-ce qu'on attend alors ?
Alors, en fait, c'est un EP assez spécial qui n'était pas vraiment prévu. En fait, ça parle de ma séparation amoureuse que j'ai vécue il y a un peu plus de 6 mois, à peu près. Et en fait, j'ai écrit des chansons comme ça pour extérioriser, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, avec mon manager et mes musiciens, qu'en fait, chaque titre avait une histoire et une chronologie, en fait, dans une séparation, tu vois. Et en fait, la première chanson qui s'appelle Italie, elle parle du début de la fin d'une relation où tu sens que ça commence à partir en couille. Et deuxième titre, Sad As Fuck, ça parle un peu de... Donc la séparation est faite.
Pourquoi et... Italie pour le début de la séparation? Parce ça s'est fait, passé en
ouais.
Italie.
Alors non, en fait, elle est partie en Italie avec sa meilleure copine pendant quelques jours. Et c'est là où j'ai senti un peu une distance, tu vois, s'installer.
l'Italie.
Et du coup, voilà, j'ai trouvé que le titre était...
Ouais,
ça,
oui,
ça collait, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et Sad As Fuck, ça parle un peu, donc la séparation est faite et tout, et ça parle un peu de cette haine que t'as envers ton ex, et t'as envie qu'en fait, elle soit plus jamais heureuse, qu'elle retrouve plus personne et tout ça. Toi, t'es un peu dans ta phase dépressive, hein, tu vois, où t'es vraiment deg. Et après, il y a un autre titre qui s'appelle 143, qui sort dans quelques semaines aussi, qui parle un peu de ce moment où je suis allé récupérer toutes mes affaires à l'appart, et où tu vois que beaucoup de choses ont changé. Les fringues, elle a enlevé les photos qu'il y avait, les trucs comme ça. Donc ça te fait quelque chose. Donc ça parle un peu de la nostalgie, de la mélancolie. Et après, t'as Tissues, où c'est la chanson un peu de la délivrance et de la renaissance. Et du coup, c'est ma chanson préférée d'ailleurs.
Ok, trop bien. Est-ce qu'il y aura un titre pour une nouvelle copine, du coup?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Peut-être un jour. J'espère.
Bien sûr. Et est-ce que c'est l'émotion sur laquelle il est plus facile d'écrire, je dirais, la rupture, la tristesse, finalement, la nostalgie?
Ouais, je pense que c'est quand même un thème qui revient 99% des chansons qu'on écoute.
C'est
donc,
vrai.
Donc ouais, ça inspire, parce que je pense que quand on a envie d'écrire vraiment quelque chose et que ça vient des tripes, c'est souvent quelque chose qui nous fait un peu du mal et ça nous fait du bien de l'extérioriser. Et c'est vrai que c'est plus compliqué d'écrire des chansons totalement dans un mood good vibe, même si j'en fais beaucoup des chansons comme ça, mais c'est pas forcément des chansons personnelles. Tu vois, les chansons good vibe que je vais sortir, c'est pas forcément des choses que moi je vis, quoi. C'est plus un mood dans lequel je suis, mais c'est pas forcément mes histoires à moi. Alors que là, pour le coup, c'est un EP ultra personnel, et en même temps, je pense que les gens, ils peuvent un peu se reconnaître un peu aussi dans ces chansons-là, parce qu'on a plus ou moins tous vécu des relations et des ruptures comme ça.
La rupture est universelle, et oui, mesdames et messieurs, la rupture est universelle.
C'est vrai, et tes musiques d'ailleurs sentent vraiment l'hiver et les feux de cheminée un petit peu, enfin, ce que j'ai ressenti moi en tout cas.
Les musiques de l'EP ou tout?
Alors, tout à l'heure j'en ai écouté une que je t'ai dimensionnée, je ne sais plus.
Better Review, ouais. Qui est assez ancienne.
Je trouve que t'as une voix assez, qui est rassurante justement, il y a un cool, post-rupture un petit peu, où on pleure devant la cheminée avec la pluie dehors.
On va tous pleurer ce soir.
Mais c'est un univers que j'aime bien moi. Et justement, et toi, t'es franco-britannique, qu'est-ce que ces deux pays apportent à ta musique différemment?
Je t'avoue que le côté français, ça m'apporte pas grand-chose dans ma musique, j'ai pas trop la culture musicale française. J'ai toujours été un peu baigné, en fait mon père est anglais, ma mère est française, mais prof d'anglais, donc il y a toujours eu cette culture vraiment anglaise à la maison, tu vois. On a toujours regardé la télé en anglais, on écoutait que de la musique anglaise, il y a beaucoup de bouquins anglais, tu vois. Ouais. Donc tout ce qui est culture française, j'avoue que j'ai grave de lacunes. Et c'est pas bien d'ailleurs, mais pour la musique que je fais moi, j'ai eu quand même des bonnes influences, tu vois, tout ce que t'as cité, la Blur, Oasis, The Verve, ça vient de mon père, quoi. Donc pour tout ce qui est musique, j'ai quand même puisé majoritairement dans le côté britannique, quoi.
Ok. Tout à l'heure, on parlait d'un peu de ta vie actuelle, tu vis dans le sud de la France, t'es partagé entre la France et l'Angleterre, et tu me disais que tu projetais peut-être de partir, passer un peu de temps à Londres, et qu'il y avait justement une sensation, un regard différent sur la musique à Londres comparé à la France. Tu peux en dire plus?
En fait, j'y allais beaucoup à Londres avant le Covid, j'allais vraiment beaucoup, je faisais beaucoup de dates là-bas et j'avais toujours senti cette vibe différente. Même si à Paris, t'as quand même une bonne vibe, hein. La scène musicale, elle est ouf, mais je sais pas, à Londres, j'ai l'impression que ça me correspond plus, tu vois. Et là, j'y suis retourné c'était au début février pour faire une date et en fait, j'ai vraiment retrouvé cette vibe tout de suite où je me sens bien, où les gens sont intéressés par la découverte d'artistes qui font de la compo. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve. Tu vois, les gens, ils payent pour aller découvrir des artistes qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils n'ont jamais entendus. Et je trouve ça chouette, tu vois. Et il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas pour faire des scènes comme ça. Et c'est pour ça, je pense que je vais m'y installer quelques mois. Après l'été,
l'été quand même ici.
L'été quand même ensuite, c'est quand même pas mal.
La France n'a pas que des mauvais côtés.
Ouais, non, c'est clair. Non, mais j'adore la France. Mais c'est juste que j'ai besoin un peu, je pense, de changer d'air. Et en fait, j'avais un peu trois options. C'est soit je reste dans le sud de la France et je continue à faire ce que je fais. Et ça va, au bout d'un moment, stagner, tu vois. Parce que dans le sud de la France, t'as pas beaucoup de possibilités. Ou alors faire du français et monter sur Paris, sauf que c'est pas forcément la musique que j'ai envie de faire.
Ouais, bien sûr.
Ou alors aller dans un pays anglophone et continuer à faire ce que j'aime et tenter ma chance et voir un peu ce que ça peut donner.
Et justement, pourquoi est-ce que l'anglais est aussi intuitif dans ta musique? C'est vraiment dû à ton parcours, à ce que t'as écouté étant petit?
Ouais, je pense que c'est ça, parce que comme je disais, j'ai pas de culture musicale française du tout.
D'accord.
Et ça me vient vraiment beaucoup plus naturellement en anglais. Là, on a signé il y a quelques années, on nous avait demandé de faire une version quota justement, tu sais, pour les radios, donc on est passé dans le lab de Virgin, donc c'était cool, mais c'était vraiment un exercice difficile pour moi, tu vois, de décrire de réécrire ma chanson en français. Alors je l'ai pas traduite, hein, j'ai essayé d'avoir un peu le même sens et tout, mais c'était dur et c'était même pas un plaisir, tu vois.
Okay,
alors quand on a eu des résultats, c'est cool, tu vois, on est passé en radio, mais c'était pas un kiff de le faire.
Ouais, mais si c'est pas un kiff, faut
donc,
pas.
Pour moi, le plus important, c'est le côté artistique et ouais.
Et qu'est-ce que l'expérience The Voice France en 2013 a apporté à ton parcours, à ta carrière ?
Alors, quand je l'ai fait, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le bac et j'avais décidé de prendre une année sabbatique parce qu'à l'époque, comme tu as dit, j'avais un groupe qui s'appelait Sunday Fools,
yes,
avec qui on faisait des scènes régionales, tu sais, c'était cool, on avait sorti un premier EP et tout, c'était cool. Donc, à la base, j'avais pris cette année pour travailler avec ce groupe et l'été du bac, The Voice m'ont appelé pour faire l'émission. C'est pas forcément un truc que je voulais faire, finalement je l'ai fait parce que on s'est dit en vrai ça peut être un bon coup de projecteur, tu vois. Et je l'ai fait sans trop d'ambition, quoi, en me disant que j'avais rien à faire là, mais que ça allait être un kiff, quoi. Et au final, je suis arrivé au premier direct, donc ça c'était cool parce que j'ai pu déjà vivre un peu le monde de la télé et tout ça, c'est quand même intéressant. Et par contre, pour le coup, t'as vraiment des monstres là-bas, tu vois, t'as des musiciens incroyables qui joue pour tout le monde, tu vois, donc ça, ouais, déjà, ouais, c'est un honneur en fait. Et après, t'as des profs de chant qui sont vraiment là pour s'occuper de toi. Parce que bon, les coachs, les Garou, les Jennifer et tout ça, on les voit pas vraiment, tu vois. On les côtoie quand il y a des caméras et des fois en backstage, mais c'est pas avec eux qu'on travaille. On travaille vraiment avec des. Je sais pas, j'ai trop le droit de dire ça en vrai, je suis en train de lâcher peut-être des bombes.
Waouh.
Et on a des vrais profs de chant qui s'occupent vraiment de nous, qui nous font bosser. Et en fait, en l'espace de 2 mois, tu t'apprends des choses que t'aurais pas appris en 1 an, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de l'émission. Parce qu'après, tout ce qui est visibilité, ça dure 2 mois et après, c'est fini. Tu vois, il y a tellement d'émissions, tellement de trucs que les gens, si t'es pas allé loin ou que t'as pas fait un buzz, voilà, t'es vite oublié. Mais c'est pas plus mal.
Ok, très bien. Si tu devrais décrire ta musique en 3 mots, qu'est-ce que t'en dirais ?
Waouh. Là, pour le coup, pour l'EP, je dirais quelque chose d'assez personnel, authentique et intimiste. Et pour ce que je fais en général, je dirais du coup un peu l'inverse, dynamique, ensoleillé et good vibes, quoi.
Et good vibes, ok. Qu'est-ce que la musique t'apporte au quotidien concrètement ? Parce que c'est ta vie depuis de nombreuses années et on sent que ça t'habite.
Ouais.
Et
qu'est-ce que ça m'apporte ? En vrai, c'est un peu cliché, gnangnang, mais du bonheur, en vrai, tu vois, c'est ce que j'aime faire. Et j'ai de la chance de pouvoir en vivre et de faire que ça quand je veux, tu vois.
Ouais.
Du bonheur, quoi, en gros.
Ok.
Vraiment d'autres mots.
Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Je suppose qu'il y a encore de nombreux concerts.
Des concerts, rien de prévu pour le moment. Là, on est vraiment concentré sur la sortie de l'EP, du coup, avec Sadasfek qui sort vendredi. Le pays qui sort le 31 mai, donc on va voir ce que ça donne. Continuer à écrire, à composer et puis on verra pour Londres ce que ça donne. Tu vois.
Ok, et je crois que tu vas nous refaire derrière une petite chanson en live là.
Ouais, on va vous jouer Peanut Butter qui est ma chanson préférée qu'on a sortie il y a quelques mois. Et voilà, let's go.
Hâte d'entendre ça.
Merci Hugo.
Ouais, merci à toi.
Et donc on enchaîne avec Peanut Butter tout de suite. Et on a écouté tout à l'heure Sad As Fuck qui était évoqué précédemment par Judd. Et c'est parti pour Peanut Butter.
Hey, I'm coming love with you this day. And enjoy the view, no, I don't ever want this day to end, no, oh, no. Yeah, I know I'll make it through those days when we're feeling blue, you know that I will always be your friend. Yeah, no, no. I've got these butterflies, something I can't hide, cause when I look into your eyes, girl, all I see is paradise, and I'm yours forevermore. My home, my open door, yeah, you're my sunny miracle, my happy end, you're beautiful. How about we run away, 2 kids, we renegades, just the 2 of us. Hey, come and love with you, let's stay and enjoy the view. No, I don't ever want this day to end, no, oh, no. Yeah, I know I'll make it through those days
when we're feeling blue, you know that I will always be your friend. Yeah, no doubt. And you look so good in my sweater, kinda fits you better. We can lay here on my sofa, I've got peanut butter. Put your head on my shoulder if you're feeling under. I will always be there, you're my super lover. What's your favorite song? Let's make a better one, and the whole world will sing along. Yeah, they sing like, hey, come and love you, let's stay and enjoy if you know. I don't ever want this day to end, no. Oh, oh, no. Yeah, I know we'll make it through those days. When we're feeling blue, you know that I will always be a friend. Yeah, no doubt.
Est-ce que vous avez retenu la mélodie du refrain vite fait là? Je vous entends chanter, s'il vous plaît. Radio Campus, en live. On va faire un truc du genre parce que les paroles elles sont un peu chiantes. Pa, pa da 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 da. Pa da 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 da. Allez, à vous plus fort. Marie aussi. Hein.
Pa. Pa la 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 la. Pa la 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 la. Pa la 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 la.
Allez, ensemble.
Alright.
Pa. Pa da 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 da. Yeah, no doubt. Hey, come and love you and stay and enjoy if you know I don't ever want this day to end. Oh, oh no, yeah, I know we'll make it through those days. When we're feeling blue, you know that I will always be a friend. Yeah, no doubt.
Woo!
Woo!
Merci d'avoir chanté, c'est top. Et merci à Juju de m'accompagner. Voilà, super guitariste qui m'a accompagné aussi hier.
Merci beaucoup.
Ben merci à tous les deux et merci à Hugo. On va continuer sur les coups de cœur.
La matinale de 19h.
Bravo les gars, merci.
Et j'enchaîne tout de suite avec mes deux derniers coups de cœur, lecture des coups de cœur latino, féministe et queer. Qu'importe le nom qu'il donne à ma folie, qu'importe le mépris avec lequel il méprise ma folie, qu'importe à quel point il rigole de ma folie. Mon cœur est plus obstiné, ma volonté plus aveugle, mon désir encore plus. Qu'importe la pauvreté, s'il y a au moins un coin sombre, un regard perdu et un désir clair. Ces mots, ce sont ceux de Yoshua, extrait de l'ouvrage Los Putos, et j'ai pas besoin de traduire le titre. C'est un livre qui a été publié il y a 3 ans déjà par les éditions Terrasse, alors que l'auteur était déjà mort en 2015. Il a été republié car Los Putos, c'est un livre essentiel, une poésie bilingue et des romans courts, doublement traduits en français et en argentin, et compilés avec des illustrations réalisées par l'auteur lui-même. Los Putos, c'est du militantisme sous toutes ses formes. C'est un livre qui casse les codes, qui reprend de l'argot, du langage de la rue, des périphéries de Buenos Aires. C'est Yoshua qui se définit lui-même comme un auteur PD, punk, et qui nous ouvre à travers son quotidien le monde de la prostitution, de l'amour, de la musique, de l'entraide, de la drogue et d'une homosexualité qui se dessine aussi sous d'autres codes que ceux que l'on a tendance à voir en Occident. Ce sont des textes bruts, violents, parfois violents, souvent violents, mais dont la beauté et la force dégoulinent entre chaque ligne. C'est des textes qui donnent envie à la fois de crier, de revendiquer sa place et de ne pas prendre celle des autres, de savourer la quiétude dont on bénéficie parfois. C'est aussi ça mon deuxième coup de cœur, Tupa Madre de L.A. Chart. Encore une fois, on est sur le continent sud-américain, mais en Uruguay. Mais aussi un peu en France. Tupa Madre, déjà, c'est une immersion par l'écriture même, puisque le texte n'a pas été corrigé et qu'il est écrit comme l'autrice parle. Un français mêlé de haigné, de prononciation à l'espagnol, un français hybride et des expressions d'enfants qui peuvent nous rappeler la vie devant soi de Romain Gary et dont la violence du quotidien est ici teintée d'amour et de tendresse. Car oui, l'autrice nous plonge dans son enfance, une enfance dont elle retrace les souvenirs et où elle essaye de comprendre le passé de ses parents. Il y a des choses qu'un enfant ne comprend pas, des attitudes, qu'on explique avec un regard juvénile et que nous, en tant qu'adultes, on arrive à percevoir dans le roman. C'est un livre éminemment politique qui parle du mouvement de libération nationale Tupamaros en Uruguay qui prône la guérilla urbaine. C'est un livre sur l'exil, puisqu'il parle des parents qui se sont exilés jusqu'en France pour devoir fuir la rébellion. C'est un livre féministe, puisqu'on découvre une mère combattante à la fois contre le fascisme, mais aussi le refus de se laisser aller face au cancer, le regard de l'autrice face à sa mère forte dans le passé et qui souffre là, mais toujours en étant forte. Un rôle de femme à la fois militante, migrante, mère, épouse, travailleuse, et enfin un livre queer, puisque l'amour ne connaît pas de genre. Malgré les fautes d'orthographe, de grammaire, il se lit d'une traite et nous dresse un portrait de lutte, d'exil et de famille incroyable. Ces deux livres sont issus des maisons d'édition Terrasse, avec lesquelles, je vous jure, je n'ai aucun lien, mais qui tient à valoriser des écrivains et des écrivaines issus des minorités. Et ça, ben, ça fait du bien. Et donc, pour finir, je rappelle que demain, à la maison des étudiants, aura lieu une conférence sur le sexisme et les violences sexuelles en milieu sportif. Donc la maison étudiante de Paris, évidemment, de 19h à 20h30. Il est temps donc de se dire au revoir, mais surtout de remercier notre belle équipe de ce soir, Lucas Marchand, Chloé Calame et Laure Mieton. Concernant la situation des établissements scolaires en Seine-Saint-Denis, Judd Todd, interviewé par Hugo, qui nous a régalé les oreilles, Esteban pour sa chronique sportive. On remercie également Clément en régie, Héloïse et Lucas pour le travail préparatoire. C'était Justine Crolla pour l'animation de cette matinale. Ne vous en faites pas, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et on vous laisse en bonne compagnie, promis.